Bonsoir Jérôme Cadet.
Bonsoir Charline, merci, à demain.
À demain.
Bienvenue à tous, le 18-20 France Inter est ouvert. Et le 18-20 de France Inter débute avec l'essentiel de l'actualité de ce lundi 1er novembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous.
L'essentiel ce soir commence avec de belles déclarations d'intention.
Les déclarations des chefs d'État à l'ouverture de la COP26 à Glasgow, 26e conférence sur le climat. Une nécessité pour sauver l'humanité selon le patron de l'ONU. Si nous échouons, nos enfants nous le pardonneront pas, a lancé pour sa part Boris Johnson. On reviendra sur ces discours dans un instant. En direct de Glasgow. Des discours insuffisants toutefois pour les ONG présentes sur place, mais aussi pour les politiques. On entendra notamment la voix d'Europe Écologie Les Verts. À suivre aussi dans ce journal, près de 170 bateaux français toujours dans l'attente d'une licence de pêche britannique. Le suicide du mari et du meurtrier de Magali Blandin dans sa cellule de prison à Rennes. Des coureurs amateurs sélectionnés pour les JO de 2024 et puis la disparition d'un géant du piano, j'ai nommé le Brésilien Nelson Frère, à l'âge de 77 ans.
À 18h15, un jour dans le monde, il sera aussi question de la COP, mais cette fois du rôle des États-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre au monde. L'Amérique de Joe Biden de retour dans l'accord de Paris, même si le président américain a toutes les peines à faire adopter son grand plan sur le climat. Nous nous demanderons ce que peut faire réellement Biden. 19h20, le téléphone sonne avec deux marins dans les starting blocks, Armel Lecléache, Kevin Escoffier. Ils seront dimanche au Havre au départ de la Transat Jacques Vabre. La joie de retrouver le public sur les pontons, la navigation à toute vitesse sur un maxi trimaran, la course au large à l'heure de la protection de la planète. On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le monde doit agir maintenant pour sauver l'humanité.
C'est en quelques mots résumé l'esprit et la lettre des discours d'ouverture de la COP26, ouverte donc aujourd'hui. 120 chefs d'État réunis en Écosse pour ce grand sommet organisé par les Nations Unies. Plusieurs grands absents, parmi les plus gros pollueurs, la Chine, la Russie, le Brésil, la Turquie, mais aussi plusieurs dirigeants à la tribune cet après-midi. Joe Biden, le président américain, et le président français Emmanuel Macron. 3 minutes de discours chacun pour lancer des travaux qui vont durer 2 semaines afin de tenter de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
C'était l'occasion aujourd'hui pour chaque pays de faire passer son message.
Welcome to COP. Après un accueil au son de la cornemuse, le Premier ministre britannique s'adresse aux dizaines de chefs d'État avec son emphase habituelle. Les générations futures ne nous pardonneront pas en cas d'échec. Boris Johnson paraphrase même la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Il ne faut pas de blablabla de la part des dirigeants. Et il évoque un personnage écossais mondialement connu pour appeler à l'action.
We may not feel much.
On ne se sent pas forcément comme James Bond. On ne lui ressemble d'ailleurs peut-être pas. Mais nous avons l'opportunité et le devoir de faire de ce sommet le moment où, enfin, l'humanité inverse la tendance et commence la riposte face au changement climatique.
Une cérémonie marquée par des témoignages forts de victimes du réchauffement climatique, comme cette jeune femme des îles Samoa dans le Pacifique, combative face à la montée des eaux. On ne se noie pas, on se bat, dit-elle. La première ministre de Barbade dans les Caraïbes, elle, tense les pays riches, accusée de ne pas en faire assez, Mia Mottley.
Do some leaders in this world believe?
Est-ce qu'il y a des leaders dans ce monde qui croient qu'ils vont pouvoir survivre et se développer de leur côté? N'ont-ils pas appris de la pandémie? Est-ce qu'il peut y avoir de la paix, de la prospérité quand un tiers du monde prospère, pendant que les deux tiers du monde vivent en état de siège, sous la menace de calamités?
Autre moment fort, le discours de Joe Biden. Non seulement les États-Unis sont de retour à la table, dit le président américain, mais espérons-le, nous serons leaders par notre exemplarité. Joe Biden de conclure que Dieu sauve la planète.
Sandy Dauphin en direct de Glasgow avec les moyens techniques de Martin Troidec. Emmanuel Macron, donc lui aussi, est intervenu cet après-midi à la tribune. Le président français qui appelle les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à rehausser leurs ambitions dans les 15 jours qui viennent et qui a rappelé que la France mobilisait plus de 7 milliards de dollars par an à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors qu'en pensent les écologistes en France? Cette ambition est-elle suffisante? Écoutez Sandrine Rousseau, présidente du conseil politique de la campagne présidentielle de Yannick Jadot.
Là, on a vraiment eu l'Emmanuel Macron, des petites leçons données à tout le monde et au final, aucune espèce de mesure sur la France. Il a annoncé 7 milliards d'euros qui sont déjà budgétés et 7 milliards d'euros, à titre de comparaison, c'est ce qu'il a donné et ce qu'il a attribué à Air France dans le cadre du premier volet de l'aide et après, il a rajouté encore 4 milliards. Donc en fait, ça veut dire que le réchauffement climatique aujourd'hui vaut moins que le sauvetage d'une compagnie aérienne. Enfin, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, on n'est pas du tout dans les bonnes mesures et surtout, on a l'impression qu'on recule encore, qu'on dit qu'on va se faire du petit commerce comme d'habitude et puis qu'à la fin, ces problématiques s'envoleront comme par magie, mais c'est irrationnel. C'est vraiment une démonstration d'une irrationalité et d'un enfermement dans un système économique et productiviste qui est à la source du problème.
Sandrine Rousseau pour Écologie, Europe Écologie, Les Verts. En marge de la COP26, il était une rencontre aussi très attendu aujourd'hui à Glasgow, une rencontre entre Boris Johnson et Emmanuel Macron sur le dossier de la pêche. Échange cordial, quelques minutes seulement pour faire retomber la pression, mais sans nouvelle déclaration. Paris, je vous le rappelle, menace d'appliquer des mesures de rétorsion dès ce soir minuit si Londres n'assouplit pas sa position sur les licences de pêche. À ce jour, selon nos informations, des négociations sont en cours entre les deux pays sur environ 450 bateaux. 168 attendent encore d'obtenir un sésame britannique et parmi ceux qui n'ont toujours pas de licence. Stéphane Pinto, il est vice-président du comité des pêches de Boulogne-sur-Mer, impatient de reprendre la mer, mais inquiet sur son avenir.
Bah, nous, on fait une demi-heure de bateau et on est dans les eaux anglaises. Mon bateau, il est de 1988 jusqu'à aujourd'hui. Ce bateau a navigué plus ou moins dans les eaux anglaises. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir des justificatifs électroniques, c'est-à-dire on les a, mais depuis 2016. Mais le problème, c'est que les Anglais ont décidé de prendre des années de référence bien avant l'installation de ces appareils à bord des bateaux. Moi, j'ai un bateau de 12 mètres, j'ai 4 hommes d'équipage, 4 familles qui vivent de ce bateau. Là, avant les fêtes comme ça, on ciblait, nous, principalement le tourteau, le homard ou des choses comme ça, ce sont des fruits de mer. Et ben, on n'a pas pu et on n'aura pas la possibilité de mettre un peu d'argent de côté pour passer les quelques mois d'hiver proches, enfin janvier, février, des mois où c'est plus difficile pour la pêche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, aujourd'hui, nous sommes inquiets. Demain, on serait heureux de savoir qu'on a de nouveau les autorisations, mais c'est assez tendu entre la France et le Royaume-Uni. Donc, ce que je crains, c'est que Boris Johnson ne revienne pas sur sa position et qu'on se retrouve sans capacité de pouvoir aller pêcher.
Ah, Stéphane voilà. Pinto, vice-président du comité des pêches de Boulogne-sur-Mer. Un cliché pour rassurer les Britanniques. On la voit seule au volant d'une Jaguar verte. Lunettes de soleil ou foulard dans les cheveux. C'est la dernière photo de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, publiée cet après-midi dans la presse outre-Manche, la reine d'Angleterre, qui était mise au repos il y a une dizaine de jours, interdiction de tout déplacement officiel pour 2 semaines.
Il avait reconnu le meurtre de sa femme, Magali Blandin.
Cette mère de famille de 4 enfants disparue en février dernier à Montfort-sur-Meu, près de Rennes, et retrouvée morte 1 mois plus tard. Son mari, Jérôme Gaillard, avait tout avoué à la police. Leur divorce qui se passait mal, le complot criminel monté avec ses parents, et Jérôme Gaillard qui s'est suicidé dans sa cellule de la prison de Rennes-Vezin. Son corps a été retrouvé ce matin par les agents pénitentiaire. Et pour tous les protagonistes de l'affaire, Pierre-Antoine Lefort, c'est un immense gâchis.
Ce sont les mots mêmes de l'avocat de Jérôme Gaillard, maître Jean-Guillaume Lemaintier.
Mes premières pensées, elles vont pour ces 4 enfants qui vivent une nouvelle fois un drame et un deuil. Après avoir perdu leur maman, ils perdent leur papa.
Il avait prévenu l'administration pénitentiaire sur le risque de passage à l'acte de son client en raison de sa détresse psychologique.
C'est un homme qui était en souffrance par rapport à ce qu'il avait fait et qui se retrouvait seul face à son crime, très isolé, hein, socialement, familialement, puisque en détention, personne n'allait le voir à part ses avocats. Je crois qu'il était fatigué, épuisé, lucide aussi par rapport à son sort pénal et carcéral. Il n'y avait plus d'avenir. À l'entendre.
Depuis 3 semaines, Jérôme Gaillard était en grève de la faim pour que ses enfants soient regroupés au même endroit et qu'ils puissent lui rendre visite comme il le souhaitait. Près de son corps, une lettre d'adieu et ce qui semble être un testament ont été découverts. Jérôme Gaillard ne sera jamais jugé pour le meurtre de sa compagne. Restent ses parents mis en examen pour complicité et qui ont reconnu l'avoir aidé.
Maître Olivier Chauvel défend son père, Jean Gaillard.
C'est pas une bonne nouvelle pour la manifestation pleine et entière de la vérité, c'est certain. On a quand même le protagoniste numéro un qui disparaît. Il appartiendra de voir s'il a pu tout dire ou non. Mais c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour l'information en cours.
La famille de Magali Blandin, elle ne souhaite pas faire de déclaration à ce stade.
Pierre-Antoine Lefort de France Bleu Armorique. Quand la gauche monte au créneau face à Éric Zemmour, jusqu'ici, c'est surtout la droite et le Rassemblement National qui tâchaient de se positionner face à la probable candidature du polémiste d'extrême droite. Mais ce week-end, coup sur coup, et les socialistes et les communistes ont fait de même, avec notamment les propos virulents de la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo. Laurence Perron.
On avait taxé de poussif le début de la campagne d'Anne Hidalgo, moqué son côté sans aspérité, une candidate incapable de sortir de sa zone de confort. Hier, elle en est sortie de manière tonitruante face à des journalistes quelque peu médusés.
J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle et pas un débat sur, pardon, hein, mais j'allais dire un gros mot, cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol. Monsieur Zemmour assène des messages racistes, des messages antisémites. Écoutez, réveillez-vous.
À quelques encablures sur un autre plateau télévisé, Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français, annonce son intention de faire interdire la candidature d'Éric Zemmour.
Il existe dans la loi un arsenal qui permet de rendre inéligible un responsable politique qui a eu des propos racistes ou antisémites. Eh bien, je vais déposer à l'Assemblée nationale une résolution le 2 décembre prochain pour que, enfin, un responsable politique ne puisse pas se présenter à une élection quand il a été condamné pour racisme ou antisémitisme.
Pourquoi une nouvelle polémique après celle déclenchée par les propos pour le moins hasardeux de Jean-Luc Mélenchon sur la qualification ou non d'antisémitisme relative à Éric Zemmour, un vrai faux candidat qui sature néanmoins tout l'espace public politique et médiatique.
Laurence Perron, c'est une décision qui avait profondément choqué lors des JO de Tokyo. Les joueuses de handball de plage norvégiennes avaient écopé d'une amende pour avoir joué en short et non pas en bikini. Elles le jugeaient dégradant et peu pratique. Depuis, la fédération a dû changer ses règles. Les joueuses de handball de plage peuvent aussi porter des shorts, mais des shorts courts et serrés et pas longs et larges comme ceux des hommes.
C'était le défi sportif du week-end, courir plus vite qu'un champion pour participer aux JO de 2024.
Ouais, c'est une idée des organisateurs des Jeux Olympiques de Paris. Hier, donc, des coureurs amateurs ont affronté sur les Champs-Élysées le double champion olympique et recordman du monde du marathon, le Kenyan Eliud Kipchoge. L'objectif, c'était de courir 5 km sans être rattrapé par le champion. Et en cas de succès, on pouvait décrocher un dossard pour le marathon ouvert au grand public des Jeux de 2024. 1500 coureurs ont décroché le précieux sésame, Fanny Lechevestrier.
Alors, il faut imaginer une sorte de jeu du chat et de la souris géant où le chat, en l'occurrence Kipchoge, part après tout le monde avec un retard plus ou moins important, selon le niveau déclaré des amateurs. À 56 ans, Christophe était ainsi parmi les premiers à s'élancer dans le groupe des 8-10 km/h. À l'arrivée, il n'a pas été rattrapé par le champion, mais bien par l'émotion.
Une espèce de joie de ce challenge avec une dimension un peu comment dire, imprévisible, puisque vous êtes pourchassé par le meilleur coureur du monde, et quand vous arrivez, vous êtes super content, d'être allé au bout.
Bien conscient, en tant que coureur du dimanche, comme il se qualifie, de participer à quelque chose d'exceptionnel.
C'est une chance qu'on peut avoir qu'une fois dans une vie, d'une certaine façon, l'occasion de participer à un événement mythique, hors de portée de l'amateur, du coureur du dimanche. Je trouve que c'est une très belle occasion de faire de cet événement des JO de 2024 un événement populaire en y associant les sportifs amateurs.
Un dossard qui lui donne en plus une motivation supplémentaire d'aller courir. Ce matin, il était d'ailleurs déjà reparti en entraînement, en pensant bien sûr à Paris 2024.
Fanny Lechevestrier a noté que parmi les 3600 participants hier, certains contestent ce soir l'équité de la course et demandent réparation dans une pétition en ligne qui a déjà recueilli quelques 1000 signatures.
Et on termine avec la mort d'un prodige du piano.
La disparition du pianiste brésilien Nelson Frère, l'un des plus grands pianistes de ces dernières décennies, jouant dès l'âge de 3 ans, donnant des récitals à l'âge de 5 ans, est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Voilà, on entend ici Nelson Frère jouant le deuxième concerto pour piano de Frédéric Chopin avec l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck. C'était l'un de ses derniers concerts le 26 avril 2019 à la Philharmonie de Paris.
Sébastien Legénie, merci à vous pour ce journal. À tout de suite dans Un jour dans le monde, sous les radars, vous nous parlerez notamment de la pratique ancestrale du nettoyage de la mort en Suède, sujet spécial Toussaint. Ce soir, nous parlons de Joe Biden et du climat. Et puis, en deuxième heure, le téléphone sonne avec deux invités, Armelle Lecléache, Kevin Escoffier. Ils embarquent ensemble dimanche à bord du Maxi Trimaran Banque Pop 11 pour une course transatlantique, la Jacques Vabre direction la Martinique. Vous leur posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Très utile aux marins, la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
Et un coup de vent cette nuit en Corse?
Oui, après avoir été bien arrosé aujourd'hui, c'est au tour du vent de se mettre en évidence sur la Corse. Les rafales seront violentes sur le nord de l'île. Sur le cap Corse, qui est un cap très exposé au vent, des pointes à plus de 180-200 km/h sont même possibles cette nuit. Le vent va aussi se renforcer dans le golfe de Gascogne à l'approche d'une perturbation. Perturbation qu'on retrouvera demain sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne avec des pluies plus marquées l'après-midi. Pluie aussi au programme demain matin entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes avec une limite pluie-neige qui va s'abaisser vers 1200 mètres d'altitude. Près des côte du nord-ouest, ce sont des averses qui sont attendues avec même quelques coups de tonnerre entre le Finistère et le littoral normand. Sur le reste du pays, le risque d'averses sera plus faible, les éclaircies seront quand même plutôt timides, hormis sur la frange la plus méridionale de l'Hexagone entre le Béarn, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le soleil sera largement prédominant.
Et on attend une nouvelle baisse des températures.
Oui, la baisse des températures amorcée aujourd'hui se poursuivra demain et aussi mercredi. Demain, cette baisse sera surtout sensible sur les températures minimales qui perdront 2 à 5 degrés par rapport à ce matin, descendant le plus souvent entre 4 et 11 degrés avec encore 11 à 14 degrés sur le Pays Basque et près de la Méditerranée. Demain après-midi, il fera 12 degrés à Lille et Dijon, 13 degrés à Caen, Paris, Bourges et Mulhouse, 14 degrés pour Bordeaux et Clermont-Ferrand, 15 degrés à Grenoble, 18 degrés sous le soleil à Toulouse et Montpellier et 20 degrés à Nice et Bastia.
Sébastien Léas pour la météo, à tout à l'heure.